Marie-Pierre Pollack est avec nous ce matin. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Est-ce que vous avez passé un bel été Marie-Pierre ?
Un été magnifique. Je suis très très heureuse de la rentrée.
Eh bien, avec vous ce matin. De retour au charbon Marie-Pierre. Voilà, jusqu'en juillet, c'est parti.
Pleine d'enthousiasme.
Et on vous retrouve donc chaque semaine. Et ce matin, c'est le retour de la revue de presse chrétienne donc, et une revue de presse chrétienne foisonnante.
Et oui, Jonathan, avec notamment le très prochain voyage du pape en France. Alors, j'y reviendrai tout au long des semaines qui viennent. Mais aujourd'hui, avec le magazine La Vie et le journal La Croix, grand coup de projecteur sur l'enfance. La Croix, cette semaine, relaie les résultats du rapport PISA. Vous les avez certainement vus. Conclusion de l'étude, en France, le niveau des élèves n'a jamais été aussi bas. À qui la faute ? Méthodologie, enseignants, parents, écrans, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, les grands coupables pointés du doigt par le rapport. Pour autant, si la Croix de ce jeudi titre « La bataille de l'attention, comment sortir les enfants des réseaux », Jérôme Chapuis, rédacteur en chef du journal, dans son édito de mercredi, renvoie les uns et les autres dos à dos. Tous responsables. Et pour ma part, je vous renvoie également à la chronique « Douce amère » d'Alain Raymond. Classement PISA, peut-on se consoler d'être aussi nul que les autres ? Et puis, un peu à la manière d'un miroir inversé, voilà ce que je lis dans le pèlerin de cette semaine. La salle de classe est un lieu hors sol, symptôme de tout ce qui se passe dans la société, mais aussi un lieu où les paroles en commun se construisent, un lieu indemne où il y a des catastrophes et des miracles. Celui qui parle ainsi est un ancien professeur devenu écrivain. Dans la solitude des professeurs est infinie, son dernier livre, Yannick Enel compte le quotidien d'un jeune prof, entre sonneries stridentes, collègues pleins de sève ou désabusés et gamins provocateurs. Cette semaine donc, dans les colonnes du Pèlerin, il prend le temps de raconter, comme l'écrivent joliment Muriel Foria et Samuel Liévin, de raconter comment les profs sont des lanternes allumées dans la nuit. C'est beau, non ? C'est tout à la fois un cri de détresse et une déclaration d'amour au métier d'enseignant. Et pour nous, à l'aube de cette nouvelle année scolaire, un message d'espérance.
Le magazine La Vie, quant à lui, nous parle de l'enfance outragée.
Ses parents l'ont enfin retrouvée. Après un mois sans nouvelles. À 14 ans, l'adolescente sans histoire suit une amie qui lui promet l'aventure. Arrivée à Paris, elle la confie à un jeune homme. Sarah est violée. Elle perd pied. S'en suivent les ballons de protoxyde d'azote, le cannabis. Le piège se referme. Aujourd'hui, entre 30 et 50% des personnes en situation de prostitution sont des mineurs. Ce qui veut dire que près de 10 000 à 20 000 enfants seraient concernés. Voilà ce que vous pourrez lire dans le grand dossier du magazine La Vie qui a mené une enquête sur la mécanique sordide des nouveaux réseaux de proxénétisme des mineurs. Ultra violents et sans limite, ils prennent dans leur filet des milliers d'adolescents de plus en plus jeunes. Depuis des années, Dahlia se bat pour arracher son fils à ces réseaux. Il faut tenir. Je m'accroche à ma foi, à ma famille, à mon mari. Ma force est là. Mais je suis fatiguée. Un témoignage sobre et sans appel.
On se décentre un peu, Marie-Pierre, et direction le détroit d'Ormuz.
Avec les marins du détroit d'Ormuz, les grands oubliés de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, comme l'écrit Rachel Notto du magazine Le Pèlerin, qui les a rencontrés. Depuis le début de la guerre, le détroit d'Ormuz est devenu presque infranchissable. Quelques 6000 marins restent bloqués dans le golfe Persique. Entre missiles, navires abandonnés et menaces pour leur emploi, ces hommes continuent pourtant de prendre la mer au péril de leur vie. Ratnadip Petankar est l'un d'eux. Ingénieur mécanicien indien, le marin travaille sur l'un de ces navires-citernes. Il mouille actuellement dans les eaux émiraties. Alors qu'il ne devait rester que 7 jours dans le golfe au début de l'été, il y est toujours 2 mois plus tard. Les autorités iraniennes ne répondent pas aux demandes de son capitaine. Cependant, le trentenaire n'est pas un novice. Depuis le début du conflit, il a déjà passé 5 mois dans le secteur. Pour autant, il ne se voit pas rester à terre. « Tu ne vas quand même pas repartir », s'inquiètent ses proches. « Je ne peux pas rester à la maison, loin d'un bateau. Je m'y sens libre », tente-t-il d'expliquer. Pour lui, la mer est une promesse.
Simon Leys, lui aussi, était libre. Sa parole était libre.
Et il l'a payé par de longues années d'ostracisme. Le 9 septembre 1976, il y a tout juste 50 ans, disparaissait Mao Tse-tung. Avec son livre critique devenu célèbre, « Les habits neufs du président Mao » publié en 1971, le sinologue Simon Leys fut le premier à déboulonner la statue du grand timonier. Décrié, pointé du doigt par les intellectuels et politiques de tous bords, de gauche comme de droite, il devient très vite un paria. Il faudra attendre presque 15 ans avant qu'on ne reconnaisse en lui l'un des rares à avoir dit à ce moment-là la vérité, à dire qu'il avait eu raison avant tout le monde. Dans un entretien éclairant avec Jérôme Michel, l'auteur d'un essai consacré à l'intellectuel, un entretien à lire sur lacroix.com, notre consoeur Céline Oyot décrypte pour nous la démarche du sinologue qui, d'après Jérôme Michel, et je le cite, n'a jamais été le partisan d'une quelconque idéologie, que ce soit de droite ou de gauche. Il se présentait avant tout comme un catholique. En réalité, il refusait de mettre de l'absolu dans la politique. Dans la Croix Hebdo et dans la même veine, Anne Cheng, sinologue et professeur au Collège de France, revient sur l'étouffement de la vie intellectuelle en Chine. 50 ans après la mort de Mao, la fille de François Cheng déconstruit les idées reçues sur le pays. Un entretien éclairant.
Et enfin, on parle aussi d'un pape.
Non, pas de Léon XIV, pas encore. Mais de celui qui, tout au long de son pontificat, effectua 8 voyages en France. 8 voyages qui disent son attachement et son amour exigeant pour notre pays. Je veux parler bien sûr de Karol Wojtyła, saint Jean-Paul II. De l'interpellation historique au Bourget en 1980, France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême, jusqu'aux adieux de Lourdes en 2004, où il rendit alors un dernier hommage à la foi de cette terre bien-aimée de France, Alexia Vido, notre consoeur de la vie, revient sur un quart de siècle de relations entre le pape polonais et la fille aînée de l'Église. Mais d'où vient donc cette expression « fille aînée de l'Église » et que signifie-t-elle vraiment ? Réponse dans une petite vidéo, un short, à découvrir sur le site de la Croix. Je vous laisse le plaisir de la découverte.